Bonjour à tous et bienvenue sur Tempo Goulette. À l'occasion de cette émission du 1er avril, nos sujets du jour seront ponctués de petits moments rigolos. J'espère que notre humour vous plaira. Nous commençons cette deuxième émission par la rubrique Un jour un métier, présentée par Anaïs et Val. Écoutons tout de suite leur interview.
Et maintenant, nous allons vous présenter le métier de professeur des écoles.
Nous allons interviewer Madame Cuypert, professeure de CM1 qui travaille à l'école Python A, basée sur la commune de Saint-Leu. Bonjour Madame Cuypert, pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Bonjour, j'ai choisi ce métier parce que depuis longtemps je voulais travailler avec des enfants et pouvoir partager avec les autres et permettre aux autres d'apprendre des choses.
Quelles études faut-il faire pour faire ce métier ?
Pour faire ce métier, il faut avoir un master, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait des études 5 ans après le bac.
Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ?
Les avantages pour moi, c'est de faire le métier que j'ai choisi, donc le métier que j'aime. Et quant aux inconvénients, ce qui est un peu difficile, c'est quand on est resté une année avec les élèves et les accompagner toute l'année, la séparation à la fin de l'année, des fois c'est un petit peu difficile.
Ce métier est-il accessible à tous ?
Je pense que ce métier est accessible à tous. Par contre, il faut vraiment faire ce métier-là, il faut vraiment choisir de faire parce qu'on a envie vraiment et pas le faire par obligation parce que sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt.
Et maintenant, quelques mots des élèves de la classe de Madame Cuypert.
J'aime ma maîtresse parce qu'elle est trop gentille et elle propose plein de choses bien, comme de l'art plastique, des sorties au musée ou au volcan. Elle impose des règles quand il y en a besoin. Elle fait des blagues et elle nous laisse parler. Et tout ça, c'est ce que j'aime chez maîtresse.
Moi, je pense que ma maîtresse est exceptionnelle et formidable. Je pense que c'est la maîtresse la plus gentille.
Cette année 2025, je préfère ma maîtresse Cuypert car elle m'aide quand j'ai besoin d'aide pour mes maths. Et elle m'aide aussi pour les multiplications.
Notre maîtresse, je l'adore. On la comprend facilement. Et quand on apprend avec elle, on apprend beaucoup plus facilement. C'est comme si elle transformait les maths en parc aquatique. Pour l'histoire, elle nous amène dans le Moyen-Âge. Et elle nous amène jusqu'en haut de l'Himalaya. Avec elle, il y a des dragons et des licornes dans l'armoire.
Du coup, c'est fini pour les petits mots de vos élèves. Qu'est-ce que vous pensez de ces mots ou est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Ça me fait plaisir d'entendre ces petits mots des élèves. Je vois qu'ils sont contents et qu'ils passent une bonne année avec moi et ça me fait plaisir d'avoir ces retours-là. Je suis contente d'avoir choisi ce travail-là du coup.
Et c'est fini pour nous. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en plus de cela ?
Non, ça va, merci.
Du coup, au revoir Madame Cuypert.
Au revoir Val, au revoir Anaïs.
Au revoir.
Merci les filles pour cette interview. Et maintenant, place à une petite blague. Attention, contrôle surprise. C'est facile, vous allez voir. Combien font 3 et 3 ?
Match nul !
Pouvez-vous me parler de la Seconde Guerre mondiale ?
Bon, 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 bon !
Je suis belle, c'est à quel temps ?
Au passé !
Et en quelle année est né Napoléon ?
Je sais pas, j'étais pas encore née.
Bob a 47 bonbons. Il en mange 40. Que lui reste-t-il ?
Le diabète !
Nous accueillons maintenant Léna qui nous met l'eau à la bouche avec sa rubrique Cuisine autour du monde.
Cuisine autour du monde. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter des menus très originaux.
Les plats viennent du Japon, de l'Espagne et du Portugal. Nous commençons avec l'entrée, venue du Japon. Découvrons la soupe miso. La soupe miso vient de Chine. Vous serez peut-être surpris, mais si la soupe miso est devenue un symbole de la cuisine japonaise, c'est car les moines bouddhistes chinois, ceux qui l'ont créée, exportaient la soupe miso au Japon. Vous pouvez retrouver cette recette sur le site Marmiton. Passons au plat, venu d'Espagne, la tortilla. La tortilla de patata vient d'Espagne. Elle a été créée par des paysans espagnols. Cette combinaison parfaite de pommes de terre et d'œufs a conquis le palais de nombreuses générations et est aujourd'hui un symbole de la cuisine espagnole. Vous pouvez retrouver cette recette sur le site Cuisine As. Pour finir, un dessert venu du Portugal, les pastas de Natal. Les pastas de Natal viennent du Portugal et a été créé par les moines Lisobeth. Une pasta de Natal est littéralement une tartelette à la crème. Vous pouvez retrouver cette recette sur Marmiton. Voilà, bientôt fini. Mais pour finir, une recette typiquement réunionnaise, le carré poulet. Le carré poulet est composé de sel, de poivre, 3 cuillères à café de curcuma, 2 branches de thym, 4 tomates, 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol, 1 kg de poulet frais, 3 oignons rouges, 4 gousses et 50 cl d'eau. Et pour accompagner, un rougail tomate. Le rougail tomate est composé de 2 belles tomates, 2 belles échalotes, 1 morceau de gingembre frais, 10 petits piments, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou de tournesol, 1 petite cuillère à café de sel, un peu de ciboule ou de ciboulette. C'est la fin. On espère que vous avez apprécié et qu'on aura appris des choses.
Merci les filles pour cette belle recette et plein d'autres du coup. Vous m'avez donné faim maintenant. Place à notre petite blague.
Georges, il faut que tu ailles au collège.
Non, j'ai pas envie.
Georges, il faut que tu y ailles.
Non, je suis trop fatiguée.
Non mais Georges, t'es le principal quand même.
Plus sérieusement, c'est au tour de Victor, notre passionné d'histoire, de nous raconter le débarquement de Normandie.
Le débarquement de Normandie. Le mardi 6 juin 1944 connaît le débarquement de Normandie. En fait, il n'y a non pas un débarquement, mais 6, les voici. Les plages d'Utah Beach, de Omaha Beach, de Gold Beach, de Juno Beach, de Sword Beach et la pointe du Hog. Mais avant de débarquer, il aura fallu une organisation longue et compliquée en profitant des leçons du débarquement raté de Dieppe, comme le choix des plages de sable qui amortissent les obus contrairement aux plages de galets. D'abord, il a fallu trouver des hommes et du matériel. Ensuite, les Alliés ont trompé les Allemands avec des chars en carton manipulés par des hommes pour faire croire un débarquement à Calais. Les Alliés ont aussi envoyé de faux messages faciles à intercepter pour faire croire à une attaque en Norvège. C'était l'opération Fortitude. Pour débarquer, il fallait que la marée soit suffisamment basse pour que les barges de débarquement ne s'échouent pas sur les pièges allemands. Mais un débarquement à marée basse exposerait plus longtemps les hommes aux feux allemands. Le débarquement devait avoir lieu au petit matin. La pleine lune était requise pour faciliter les parachutages, les bombardements et la traversée de la Manche. Le général Eisenhower planifie le débarquement au 5 juin 1944, mais une tempête l'oblige à reporter ses plans. Les soldats déjà embarqués sur les navires sont forcés d'attendre. Enfin est arrivé le jour J, autrement dit le D-Day. Le mardi 6 juin 1944, des bateaux de déminage ont ouvert 10 voies navigables. La pointe du Hoc était un point stratégique pour les Allemands. Elle surplombe les plages d'Omaha Beach et d'Utah Beach. Il fallait donc empêcher les canons de la pointe du Hoc de tirer sur les navires allant à ces plages. Les bombardements et le pillage de la côte étant insuffisants, il a fallu une attaque directe pour les neutraliser. Le deuxième bataillon de Rangers américains a escaladé la falaise à l'aide d'échelles, de crapins et à main nue, sous les contre-attaques allemandes. À Omaha Beach, les bombardements de préparation n'ont pas atteint leur cible. À cause des nuages, les soldats américains qui ont débarqué eurent affaire à des défenses allemandes presque intactes. il y a eu beaucoup de pertes humaines, le commandant allié a même envisagé d'évacuer la plage. Finalement, les soldats réussirent à faire une percée avec les deux navires qui se sont rapprochés de la plage au risque d'être touchés par les batteries allemandes. Cette plage fut surnommée Omaha la sanglante. Entre 1000 et 2000 hommes, soldats alliés y ont perdu la vie. À Gold Beach, tout s'est déroulé comme prévu. Sur les 25 000 soldats français et britanniques qui ont débarqué, on compte 350 tués. L'ensemble des débarquements de Normandie portait le nom de code d'Overlord. Au total, 156 000 hommes soldats ont touché le sol normand. 133 000 par la mer et 23 000 par les airs, dont 10 000 sont morts. La prise de ces plages a permis par la suite le débarquement massif d'hommes et de matériel pour poursuivre la bataille de Normandie. Cette opération a marqué le début de la libération de la France.
Eh B, tu en connais des choses, Victor. Place à notre petite blague.
Qu'est-ce qui est petit, vert et qui fait peur?
Un petit pois moisi?
Un petit pois dans un bazooka?
Et maintenant, je vous présente l'atelier EAIO du collège. L'atelier EAIO du collège est un atelier qui se fait entre midi et 2, le mardi et le vendredi. Le mardi, ce sont des profs spéciaux qui viennent. Et le vendredi, c'est le prof de musique, Monsieur Meilleur, qui est là pour refaire ce que nous avons fait le mardi. Nous apprenons à jouer des mélodies et on peut aussi demander à faire d'autres mélodies que nous connaissons. Il y a plusieurs instruments dans cet atelier. Il y a le saxophone, il y a la trompette, le trombone et les percussions. Les percussions sont composées de soit la batterie qui est à jouer sur place, soit les caisses claires à jouer quand on marche dans le collège. Quand on marche dans le collège, on joue de la musique. La dernière fois, on a fait un petit spectacle à l'extérieur pour attirer le monde et ensuite on l'a mis dans la salle. On a fait ce petit spectacle avec la chorale et nous allons faire aussi des spectacles hors du collège. Place à notre petite blague.
Quelle mamie fait-elle peur aux voleurs?
Je sais pas.
Ma mitraillette.
Thibaut, c'est ton tour. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Bonjour tout le monde. Dans la rubrique Société, je vous présente l'ufologie, la science qui étudie les ovnis. Les origines des théories d'êtres venus d'ailleurs sont nombreuses, mais elles remontent quasiment toutes à l'Antiquité. Elles se sont renforcées au fur et à mesure des siècles grâce aux multiples preuves d'une vie extraterrestre sur Terre. Mais y a-t-il réellement des signes de vie extraterrestre sur Terre? C'est ce que les ufologues essayent de découvrir. Tout d'abord, qu'est-ce que l'ufologie? L'ufologie, c'est une discipline qui consiste à recueillir, analyser et interpréter les données se rapportant au phénomène des objets volants non identifiés, OVNI, des témoignages oraux ou écrits, des photographies ou des traces au sol. Mais la plupart des personnes qui sont qualifiées d'ufologues sont de l'avis que tous ces signes sont d'origine extraterrestre. L'affaire de Roswell et la zone 51. En juillet 1947, un fermier de Roswell ramassa des débris métalliques. Un communiqué de presse mentionnant un disque volant fut rapidement démenti par une contre-déclaration soutenant que les débris revenaient d'un ballon météorologique accidenté. Mais cette histoire ressemblait à une tentative maladroite pour dissimuler une vérité bien plus sensationnelle, selon laquelle un vaisseau extraterrestre se serait écrasé dans le désert et que ses occupants auraient été déplacés dans une base militaire. Le lieutenant Walter Haut, porte-parole de la zone 51, à cette époque, publia un communiqué expliquant que le vaisseau spatial écrasé était en fait un ballon météorologique, mais à sa mort, il laissa une déclaration écrite confirmant que le ballon n'était qu'une invention et qu'il y avait bien des extraterrestres qui auraient atterri et qu'ils auraient été étudiés à la zone 51. L'être mythe. L'affaire Humo a débuté dans les années 1960, lorsqu'un groupe d'individus prétendument originaires de la planète Humo a commencé à envoyer des lettres et de documents à diverses personnes à travers l'Espagne et d'autres pays. Comme ces lettres contenaient des informations sur la vie des habitants de cette planète et d'autres choses non vérifiables, elles paraissaient assez étranges et fantastiques. Elles ont donc suscité une grande controverse. D'ailleurs, des enquêtes menées pour déterminer leur authenticité n'ont abouti qu'à des résultats contradictoires. Pourtant, dans plusieurs de leurs lettres, les Humites nous ont expliqué leur version de la naissance du Big Bang, qui, bien qu'elle était considérée comme fausse à l'époque, s'est révélée vraie quelques années plus tard. Les crop circles ou cercles de culture sont de grandes figures géométriques pouvant aller de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres, tracées dans des champs de blé principalement. Variant de simples cercles à des rosaces d'une grande complexité, beaucoup disent que ces œuvres d'art sont d'origine humaine et qu'elles ne sont rien d'autre qu'une simple supercherie. Mais bien qu'il soit possible en effet de le réaliser dans des champs par courbure et couchage des épis, il est difficile d'y arriver avec autant de précision que les plus complexes d'entre elles. De plus, il faudrait pour cela arriver à ne laisser aucune trace de passage ou d'activité aux alentours de ces figures, ce qui est pratiquement impossible. Et parvenir à faire tout cela en une seule nuit est encore plus compliqué. Le raid aérien au-dessus de Los Angeles. Dans la nuit du 25 au 26 février 1942, au-dessus de Long Beach, à Los Angeles, plusieurs témoins affirment avoir vu des ovnis dans le ciel. Selon le témoignage de William Tompkins, l'un d'entre eux, « Nous avons aperçu dans le ciel un gros aéronef circulaire à environ 2000 mètres de hauteur. Il a ralenti jusqu'à s'arrêter au-dessus de nous, puis il est resté stationnaire. Il était éclairé par 8 projecteurs tandis que les obus anti-aériens explosaient sur lui et autour de lui. » Fin de témoignage. Il est donc évident qu'il ne s'agissait pas d'avions de type courant ou connu. De plus, ce n'est seulement qu'après la guerre que furent inventés les premiers hélicoptères pouvant faire du vol stationnaire. Or, en plus d'être immobile, ces aéronefs étaient silencieux, selon Tompkins et d'autres témoins. En conclusion, des crashs de vaisseaux extraterrestres aux apparitions en direct d'OVNI en public, les signes sont nombreux pour croire en l'existence de la vie extraterrestre. Même si beaucoup de personnes trouvent cette théorie absurde, les phénomènes aérospatiaux non identifiés et autres événements étranges sont de plus en plus fréquents. Alors, s'agit-il de visiteurs extraterrestres ou de phénomènes d'origine purement humaine? Ça, c'est à nous d'en décider. L'existence de la vie extraterrestre n'est donc plus qu'un simple hobby des plus grands fans de films et séries se passant dans l'espace avec d'autres vies intelligentes, mais une théorie fondée sur des événements réels qui pourraient être confirmés par un plus grand nombre de preuves. Il y a donc des signes de vie extraterrestre sur Terre, mais seulement pour les personnes qui y croient.
Waouh ! Merci Thibaut pour cette intervention. Place à notre petite blague.
Quelle est la différence entre Tintin et Milo ?
Je sais pas.
Milo n'a pas de chien.
Écoutons Andrea qui nous raconte une belle expérience lors de la semaine de la petite enfance. Les filles, c'est à vous.
Je lis pour les petits. Le mardi 29 janvier 2025, avec le club lecture, accompagné de Madame Jogama et Madame Clotilde, nous sommes allés à la bibliothèque de Piton-Saint-Leu. Nous avons rencontré avec elle la responsable pédagogique Madame Liliane Drula, qui nous a parlé du projet Je lis pour les petits. Avec elle, nous avons choisi des albums adaptés aux élèves de l'école maternelle. Pendant plusieurs mardis, nous nous sommes entraînés à lire à voix haute, avec le ton et en articulant bien. La semaine du 17 mars, tous les matins, nous sommes allés à la rencontre des petits à l'école primaire de Piton A. Nous nous sommes répartis dans 3 classes et puis nous avons lu. Nous avons pu avoir les avis des petits qui étaient ravis. Quand nous sommes rentrés, nous avons fait le bilan de ce projet avec nos professeurs et Madame Drula. Tout le monde était content. Ce serait une action que nous renouvellerons l'année prochaine.
Waouh ! Merci beaucoup, les filles. C'est à vous, Manon et Cataleya. Je crois que vous avez quelque chose de très impressionnant à nous raconter. On vous écoute.
Une preuve d'OVNI. 1er juillet 1950, à Valensole, dans un champ de lavande, Maurice Mass dit avoir vu une soucoupe volante avec 2 individus extraterrestres. L'un d'eux le pointe avec un objet métallique inconnu et lui fait perdre connaissance. Quelques jours plus tard, des scientifiques viennent dans le champ et voient des traces sur le sol et de la lavande brûlée et conclurent qu'il y avait une possibilité qu'un ovni soit passé. Ça sort dans tous les journaux, puis tombe dans l'oubli. En 1965, le GIPN rouvre l'enquête sur les ovnis. Gary McKinnon est un passionné des ovnis depuis tout petit. En devenant grand, il pirate des ordis pour avoir les réponses à ses questions. Il a piraté les dossiers de la zone 51, qui dit qu'ils auraient trouvé une technologie secrète permettant d'utiliser l'énergie libre, mais il garde ça secret. Il a aussi fait des recherches sur Donna Haar, une experte photographie de la NASA. Dans le bâtiment 8 de la NASA, les employés retouchent les images pour effacer les ovnis. Gary a fouillé dans des dossiers top secrets et il a trouvé un dossier marqué « Images sans retouche ». Il a trouvé une image de la Terre avec un vaisseau métallique non identifié.
À ce moment-là, quelqu'un voit que l'ordinateur est piraté. Quand Gary pirate un ordinateur, c'est comme s'il y avait quelqu'un dessus. La souris bouge toute seule et les pages changent toutes seules. Il y avait quelqu'un sur l'ordinateur à ce moment-là. La personne a vu sur quel dossier Gary faisait ses recherches et appela la police. Gary n'avait pris aucune précaution. En mars 1971, la police sont venus à son domicile. Ils ont découvert ce qu'il faisait en fouillant son ordinateur. Gary est resté 10 ans en prison. Il a passé un accord avec les autorités pour garder cela secret. On le sait aujourd'hui car d'autres hackers ont fait des recherches. Même le maire de Saint-Leu est au courant et nous le confirme tout de suite aujourd'hui.
Bonjour, alors oui, c'est vrai. J'ai entendu parler de ça, donc j'ai appelé un spécialiste. Il m'a confirmé que c'était vrai. Et grande nouvelle, il y a des ovnis qui passent au-dessus de l'océan Indien et de l'Antarctique. Ouvrez donc grand les yeux et sortez vos télescopes.
Waouh ! Ça a l'air tellement impressionnant. Merci les filles. Et pour terminer, Kenzo nous présente les jeux tant attendus de 2025.
Bonjour, je vais vous parler des jeux vidéo les plus attendus de cette année 2025. Je vais vous présenter 3 jeux et que du lourd. GTA 6, après plus de 10 ans d'attente, ils vont bientôt sortir GTA 6. Call of Duty. Après un retour en force avec Black Ops 6, le prochain Call of Duty est attendu pour la fin 2025. Assassin's Creed. Reporté à mars 2025, ce nouvel épisode de la saga Assassin's Creed se déroule au XVIe siècle, en plein Japon féodal. Et aussi, la nouvelle console comme la Switch 2. La Nintendo 2 est une console de nouvelle génération, elle succède à la Nintendo Switch, comme la PS5 a pu succéder à la PS4. Elle peut faire tourner les mêmes jeux, mais aussi des titres exclusifs.
Merci, et maintenant une petite blague pour terminer.
Qu'est-ce qui est petit, carré et jaune ?
Un petit carré jaune ?
Non, Bob l'éponge.
Nous arrivons maintenant à la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos journalistes, Val, Anaïs, Léna, Mia, Victor, Thibaut, Andrea, Esther, Manon, Cataléa et Kenzo.
Et Camille, notre animatrice, bien sûr.
Merci aussi à nos professeurs, Monsieur Fontaine, Madame Le Gall-Rolly et Madame Jogama. À bientôt pour une prochaine émission.